Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas Mathieu Garrigou-Lagrange. Mathieu, que je salue et que vous retrouvez tous les jeudis à 21h pour Géographie à la carte. Mais vous êtes bien sûr, sans oser, le demander toujours, avec au programme de la littérature, de la psychologie, de la musique, bref, de la culture générale, sans limite, sans snobisme, je vais essayer, je promets, avec chaque jour une question qui vous a peut-être traversé, mais sans avoir l'idée, le temps ou le courage de la poser. Allez, c'est parti! Page 146, c'est là où je m'en suis arrêtée de ma lecture d'Ulysse de James Joyce. Pas de quoi rougir, puisque ce chef-d'œuvre de la littérature, paru il y a tout juste 100 ans, dans son intégralité, fait partie des textes qu'on parvient difficilement à finir. Curieusement, il est même devenu l'emblème de ces livres que la majorité s'accorde à trouver illisibles. Paradoxal, car à quoi bon une littérature qu'on ne lit pas? À quoi bon s'acharner et vénérer Ulysse s'il me tombe des mains.
He would never have led the chosen people out of their house of bondage, nor followed the pillar of the cloud by day. He would never have spoken with the eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the light of inspiration shining in his countenance. And bearing in his arms the tables of the law, graven in the language of the outlaw.
Bonjour Cécile Guilbert.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir pour cette première de Sans oser le demander de cette saison et d'ouvrir cette saison avec ce chef-d'œuvre, hein, Ulysse de James Joyce, et puis en plus d'ouvrir cette émission avec la voix de James Joyce qui lit justement un extrait d'Ulysse. C'était en 1924. Est-ce que ça vous fait quelque chose d'entendre comme ça la voix de Joyce? Est-ce que vous l'aviez reconnu?
Oui, parce que j'ai déjà entendu.
Vous êtes familière
de... J'ai déjà entendu la voix de Joyce. Ben, je trouve que bon, même si c'est impossible pour nous de traduire ce qu'il dit, on entend une scansion, on entend une musique.
Vous êtes essayiste et romancière, Cécile Guilbert. Vous êtes auteur de Roue libre, chronique aux éditions Flammarion, d'écrits stupéfiants, drogue et littérature d'Homère à Will Self aux éditions Robert Laffont, que je recommande chaudement à nos auditeurs et auditrices. Alors, on décide quand même d'ouvrir cette saison sur cette question. Pourquoi personne n'arrive à finir Ulysse de Joyce? Vous avez réussi à le finir. Pourquoi? Comment avez-vous réussi à faire cet exploit?
Je m'y suis surprise à plusieurs fois, mais je pense qu'en fait la question, c'est pas très important de le finir en fait.
Moi j'ai même entendu des gens qui disaient je n'arrive pas à commencer.
Oui, et ben ça non plus, la question n'est peut-être pas bien posée parce qu'en fait moi j'ai lu, je me souviens au moment de la deuxième traduction, la nouvelle traduction qui est sortie en 2004 d'Ulysse, parce qu'il y avait une précédente version bien connue en 29. Qui avait été faite par deux personnes, plus Valérie Larbaud, plus Joyce lui-même qui avait collaboré. Bon, cette traduction que j'avais lue jeune était très lourde, un petit peu difficile, j'avais pas tout lu. Bon, en 2004, quand il y a eu cette nouvelle traduction d'Ulysse, qui a été confiée à plusieurs traducteurs.
Donc c'est celle qu'on trouve en folio, c'est ça?
Je crois, oui.
Donc, sous la direction de Jacques Aubert.
Voilà, qui était le maître d'œuvre de la Pléiade. Je me souviens que les traducteurs avaient été interrogés par la presse, parce que c'était une époque où c'était un événement, une nouvelle traduction d'Ulysse. Et ça créait toujours autant de débats, si vous voulez, parce que Ulysse n'est pas devenu, au fil du temps, une œuvre plus facile à lire ou qui a été acceptée. Il y a toujours cette résistance, hein, à la lecture d'Ulysse. Ben, je me souviens que les traducteurs, en fait, avaient décomplexé tout le monde en disant, écoutez, ce qui est important, c'est de s'accrocher. C'est pas forcément nécessaire de commencer par le début. C'est pas nécessaire de se forcer à lire si ça vous ennuie. Vous pouvez sauter des passages. Mais c'est une expérience de lecture de toute façon, parce que ça ressemble à rien de connu. Donc vous pouvez sauter des chapitres. Vous n'êtes pas obligé de savoir que ces chapitres correspondent à des épisodes décalqués ou transposés ou parodiés de l'Odyssée d'Homère. Vous n'êtes obligé de rien de tout cela qui fait le miel en fait des universitaires.
Mais ce qui veut dire que ce texte de Joyce, donc Ulysse, bouleverse la manière dont on conçoit la lecture, c'est-à-dire de commencer par le début, de finir par la fin, si possible même de finir, de ne pas picorer. On a l'impression, quand on lit de cette manière, presque de faire violence en fait au texte ou au travail de l'auteur. Ça veut dire que Ulysse, et peut-être Joyce avait-il ça en tête, veut bouleverser la manière dont on conçoit l'acte de lecture.
Je suis pas certaine que Joyce, en fait, veut bouleverser l'expérience de lecture. Je pense qu'en fait, nous jugeons ce livre du point de vue du lecteur. Mais si je me faisais l'avocat du diable et que je me mettais à la place de Joyce, je pense pas que Joyce, en fait, se soucie du lecteur. Il vit avant tout une aventure personnelle extrêmement intense. Mm-hmm. Il faut pas oublier que Ulysse a été écrit pendant 7 ou 8 ans, ce qui est très long, dans une pauvreté, dans l'exil. C'est une aventure intérieure pour Joyce, c'est considérable. Est-ce qu'il se pose la question du lecteur? Non. Est-ce qu'on écrit toujours pour les lecteurs? Non. Il y a des auteurs qui se posent constamment la question du lecteur, et donc qui vont essayer de trouver des formes narratives simples, surtout aujourd'hui, si vous voulez, où on est quand même... l'industrie éditoriale nous pousse à ça, nous pousse à trouver des formes narratives simplifiées pour ne pas effaroucher les lecteurs. Mais à cette époque de modernité, où tout est possible, où beaucoup de choses sont à recréer, Joyce se pose pas forcément peut-être la question du lecteur. Il se pose la question de son salut, aux deux sens du terme, le salut de son âme et le salut de se sauver d'Irlande, se sauver de l'Église, se sauver de sa famille, se sauver des traditions, etc. Donc c'est un grand aventurier moderne. Et bon, le lecteur, si vous voulez, quand Ulysse est paru en...
En 1922, donc.
Alors en 22, il paraît à Paris, ça c'est bien connu, puisque personne n'en veut, en fait, hein, ni en Angleterre, ni en Irlande, ni aux États-Unis. C'est un livre qui est censuré, qui est même brûlé. Il paraît d'abord dans une revue, hein, américaine, en Europe, Little Review. Il est très soutenu par certains de ses pairs, P-A-I-R-S, écrivains. Donc c'est Sylvia Beach et Adrienne Monnier qui publient en 22 la traduction, la version anglaise en anglais d'Ulysse. Et très vite, c'est un livre qui est rejeté par beaucoup de monde, hein. Défendu par des élites disons littéraires comme Ezra Pound, d'un certain nombre d'écrivains américains, mais qui est condamné par les autres. Et quand il paraît en français, c'est-à-dire en 29. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il est soutenu par toute une série d'écrivains de l'époque, hein, qui vont de Paul Valéry à Léon-Paul Fargue, Valérie Larbaud évidemment qui a collaboré à la traduction, toute une série de grands esprits, Hemingway, T.S. Eliot, Ezra Pound toujours, mais la critique institutionnelle, entre guillemets, la critique courante, le couvre debout. On considère que c'est un tas de fumier, que c'est une ordure, que c'est très très violent. Hein, la réception critique d'Ulysse, c'est très très violent. Ça sera pareil, par exemple, en Union soviétique, où ils n'ont ni traduction, ni version qui puisse comprendre. Mais bon, au nom du réalisme socialiste, si vous voulez, c'est considéré comme une œuvre totalement décadente, abominable. Un tas de fumier, bon. Donc, si vous voulez, cette réception d'Ulysse, elle est quand même problématique. Alors, il a la chance d'être très défendu par certains esprits, mais dans l'ensemble, le public ne suit pas. Alors, c'est là où la question qu'on se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit se complexer de ne pas lire Ulysse, l'apprécier ? Alors, je pense que c'est un problème qui dépasse Ulysse, puisqu'en fait, c'est un problème qui concerne beaucoup de livres.
Alors justement, ça voudrait dire qu'il existe une littérature que paradoxalement on ne lit pas. C'est-à-dire une littérature qu'on considère trop compliquée, ça pourrait être le cas d'Ulysse. Une littérature qu'on peut peut-être considérer comme trop mauvaise, à l'inverse. On va disqualifier certaines parutions pour ça. Et puis, je ne sais pas, une littérature aussi qui est trop prolifique. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette rentrée littéraire, c'est frappant, combien de personnes vont lire ce qui se produit actuellement. Donc, ça voudrait dire qu'il existe une grosse partie des livres qui paraissent ne sont pas lus pour différentes raisons.
Alors oui, on peut dire qu'il y a trop de livres qui paraissent pour qu'on puisse les lire, ça c'est une chose, mais je pense surtout que ce qui est le point commun entre des grandes œuvres de la littérature que les gens répugnent à lire, c'est surtout le problème de la longueur. Par exemple, aujourd'hui, dans les livres qui paraissent en cette rentrée, je pense qu'il y a des livres qui sont très bons, qui font 800, 900 pages, qui valent les lire. Bon. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, nous avons le problème de l'économie de l'attention. Nous avons moins de temps à consacrer à la lecture que les générations précédentes, puisque nous avons une offre culturelle qui est extrêmement variée, etc. Bon. C'est un petit peu le même problème en cinéma. C'est-à-dire qu'en cinéma, on a été habitué à une époque à voir des films qui étaient lents, qui étaient longs. Mais si vous voulez, plus vous êtes conditionné par des contenus courts, frappants, qui vont vite, c'est pareil en littérature, des phrases simples, sujet, verbe, complément, où il n'y a pas vraiment de problème avec les concordances des temps, où il n'y a pas des longues incises, où il n'y a pas, voilà, plus les choses comme ça sont ramassées, simplifiées, plus vous vous habituez à ça, plus après vous allez avoir du mal à, si vous voulez, absorber autre chose. Mais par exemple, quand on prend une des grandes œuvres qui sont des chefs-d'œuvre que certains ont des complexes à ne pas aimer ou ne pas aimer lire, en général, c'est des œuvres longues. Hein, par exemple, Rabelais, c'est long, L'homme sans qualité, c'est long, Ulysse, c'est long, ça fait 800 pages hein, quand ça paraît Ulysse.
Il y a Belle du Seigneur aussi, on pourrait citer, À la recherche du temps perdu, évidemment, de Proust, Cent ans de solitude, j'en ai noté quelques-uns qui apparaissaient dans certains articles comme étant les livres que les lecteurs ne parvenaient pas à finir.
Alors, si vous voulez, il y a le problème de la longueur, ce qui est un problème de durée de lecture et de d'appétence de chacun pour ces grandes immersions dans les œuvres longues. Et puis après, il y a le problème du langage. Et en fait, le problème du langage, c'est un problème spécifique. Je pense à la modernité littéraire du XXe siècle. C'est-à-dire qu'avant, tout était lisible, entre guillemets. Il n'y avait pas d'effet, si vous voulez, de sens obscur. Il n'y avait pas d'obscurité linguistique, syntaxique. Bon, si on reprend Ulysse, qui est le cas un peu princeps de notre conversation d'aujourd'hui, c'est un livre qui est compliqué parce que le sens n'est pas évident, qu'il y a des jeux de mots, des parodies, il y a donc un problème qui est lié à la traduction aussi, est-ce qu'on arrive à rendre les trouvailles sonores, est-ce qu'elles sont aussi drôles, aussi intéressantes qu'en anglais, c'est pas sûr, enfin vous voyez, il y a des tas de problèmes qui sont liés à cette langue. Comme si Joyce en fait cadrait le langage autrement, hein, comme s'il écrivait dans une langue étrangère d'une certaine façon. Ce qui sera le cas aussi d'un Carlo Emilio Gadda en Italie. Hein, voilà, Carlo Emilio Gadda en Italie, c'est un auteur considérable qui joue avec les dialectes italiens, etc. Donc c'est aussi voilà cet effet de nouvelle langue à l'intérieur de la langue. Et c'est ça qui rebute les lecteurs à mon avis plus que la longueur des œuvres, c'est-à-dire de pas comprendre tout. Ou alors le fait qu'il n'y ait pas une intrigue. Parce que voilà, on est très façonné par le roman du 19e siècle.
Alors voilà, c'est une chose qu'on n'a pas encore dite, Cécile Guilbert. On n'a pas vraiment présenté le texte en tant que tel de James Joyce, parce qu'il est difficile de le présenter, puisque c'est un texte effectivement très long, donc il fait 1100 pages, mais il n'y a, on pourrait dire, que trois personnages. Et puis, il y a 18 chapitres qui renvoient à chaque fois à une aventure de l'Odyssée d'Homère, mais qui finalement, comme vous l'avez dit, ça n'est pas forcément nécessaire pour le lecteur de le savoir. Et donc, on suit les pérégrinations de Léopold Bloom durant une journée, le 16 juin 1904. Et voilà, il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a rien d'autre à dire sur ce texte que ce que je viens d'énoncer en fait en quelques secondes.
Si, on peut dire, on pourrait dire que progressivement, nous allons comprendre quelle est la situation des personnages. Stéphane Dédalus, donc le jeune, qui est en fait une sorte d'avatar de Joyce, hein, même si ce n'est pas complètement le cas, c'est quand même le personnage dans lequel il s'est le plus projeté, ancien élève des jésuites, dont la mère est morte, mourante, etc. Léopold Bloom, qui est un démarcheur en publicité, qui est censé être l'homme moyen, mais qui a en fait une ascendance juive, et donc il y a une sorte de dissonance comme ça dans l'Irlandité de Dublin, puis sa femme Molly, cette fameuse Molly Bloom, qui le trompe, mais dont il préférerait peut-être qu'elle le trompe avec Stéphane Dédalus, plus effectivement toutes les considérations qui sont liées à cette ville de Dublin, à son histoire. Donc c'est une sorte effectivement d'odyssée de la vie ordinaire quotidienne, avec des monologues intérieurs, avec des flux de conscience, avec des conversations dans un club à un moment sur Hamlet. Il y a tout en fait, finalement, il y a tout. C'est toute une épopée, si vous voulez. Une épopée qui a l'air comme ça du quotidien, mais évidemment qui ne l'est pas, parce que si le quotidien de chacun était comme ça, ça se saurait. C'est tenter autre chose, c'est tenter donc une autre aventure du langage, une autre aventure de la durée, de la narration, des temps maniés. C'est aussi une aventure de style, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs styles pour plusieurs épisodes. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoir que c'est les décalques d'Homère, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoir que, par exemple, à chaque chapitre, comme l'ont dit certains qui avaient été en rapport avec Joyce, correspond à un organe du corps humain.
Ou à une couleur,
par des couleurs, aussi. Etc. Bon, ça, c'est des trucs qui fascinent les universitaires. Mais le lecteur n'a pas besoin de le savoir. Après, c'est vrai que, comme tout livre, il offre des plaisirs différents.
Alors vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez aimé quand vous avez lu Joyce? Parce que quand on dit que le texte est illisible, il y a la frustration de ne pas comprendre, le complexe d'infériorité, et puis aussi parfois l'ennui, c'est-à-dire de ne pas savoir où on va.
Alors moi, si vous voulez, j'ai toujours fonctionné avec les livres d'une façon simple, c'est-à-dire que quand les choses m'ennuient trop, je les abandonne, et je n'ai jamais eu aucun complexe à abandonner des lectures qui m'ennuyaient, parce que là, il y a trop de livres et la vie est trop courte pour aller au fond des livres et qui vous ennuient. Je dis que ce qui me plaît dans la lecture de Joyce, c'est, et je ne m'exempte pas des lecteurs qui voudraient sauter des passages. Parfois, il m'arrive de sauter des passages. Je sais que j'ai été fascinée par la conférence qui s'appelle l'épisode qui s'appelle Caribe et Silla, qui est une conférence qui est donnée à un moment dans un endroit de Dublin où il y a toute une conférence sur le Hamlet de Shakespeare. Et sur qu'est-ce que l'engendrement symbolique d'un père, d'un fils, etc. Bon, tout ça, ça m'avait fasciné parce qu'à l'époque, j'écrivais un livre aussi sur Stern, et Stern est un auteur, qui a révolutionné le roman, mais qui a réussi la gageure d'être un best-seller de son vivant tout en étant révolutionnaire et avant-gardiste, en fait, au XVIIIe siècle.
Donc Stern, qui est l'auteur de Vie et opinion de Stringham Shandy, c'est ça? Laurent Stern.
Pour moi, c'est un des seuls qui infirme ce jugement selon lequel les grandes œuvres révolutionnaires ne sont pas accessibles à leur public parce qu'elles sont trop nouvelles, elles sont trop déroutantes. Stern, justement, avec une œuvre complètement déroutante, avant-gardiste à son époque, bien que le terme d'avant-garde ne corresponde pas au XVIIIe siècle, a réussi à faire un best-seller qui a fasciné tout le monde, la critique, le public, et qui est resté un chef-d'œuvre inégalé. Donc, je m'étais intéressée à Joyce aussi pour ces raisons. Mais si vous voulez, ce que je trouve qui est fabuleux dans Joyce, c'est que tout d'un coup, il y a des éclats poétiques au milieu de la trivialité. Il s'autorise tout, en fait. Il y a aussi des fulgurances de pensée. Sur la mère, sur la mort, sur ce qu'est le sexe, sur ce qu'est la féminité. Tous les thèmes sont. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une expérience de lecture qui est forcément comme ça qu'on va prendre du début à la fin. Il faut surtout pas se somnibuler avec ça. Mais ça serait dommage aussi de se priver, de ces beautés fulgurantes, de ces surprises, de cet humour aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour. C'est un livre assez comique, hein. C'est assez drôlatique. Il faut se défaire peut-être de ce qu'on s'attend à ce que s'attend à lire. Il faut peut-être quand on aime, mais on n'est pas obligé d'aimer lire à ce point non plus. Vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce que ça veut dire à ce point?
Eh ben, c'est-à-dire que il y a des livres quand même. J'ai l'impression qui fascinent plus les auteurs que les lecteurs.
Oui, ça qui fait qu'ils sont plus faits pour non pas seulement les universitaires, mais les écrivains en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui sont fascinés par certains livres parce que tout d'un coup, ça leur propose des pistes narratives, syntaxiques, lexicales, inattendues. Et donc, il y a des livres qui fascinent les écrivains, un petit peu moins les lecteurs, parce que les écrivains sont dans la fabrique et dans le laboratoire, si vous voulez, d'une langue, de leur propre langue. Ils se demandent jusqu'où ils peuvent aller, est-ce qu'ils vont avoir... Parce que tout écrivain, en fait, et surtout aujourd'hui, et je lisais justement récemment dans un des essais de la rentrée d'Alice Zeniter, Toute une moitié du monde, elle a un chapitre qui est consacré à ça, où elle se dit... J'ai été habituée à des formes narratives simples. Moi, en tant qu'auteur, je me pose des questions parce que j'ai envie de sortir du roman « as usual », comme elle l'appelle, en reprenant une catégorie qui a été inventée par quelqu'un d'autre, mais qui est cette espèce de roman que les critiques aiment bien parce que ça file droit, il n'y a pas trop de... on est sur un chemin bien balisé.
Ce que vous disiez, c'est écriture simplifiée, sujet, verbe, complément, une intrigue, quelques personnages bien incarnés, bien identifiables, et puis c'est bon.
Exactement, et une intrigue qui tient le lecteur en haleine, etc. Bon, alors elle a envie à la fois de faire ça parce qu'elle sait bien que c'est ça qui marche. En même temps, elle sait bien que c'est une prison aussi. Donc, elle dit j'ai le cul entre deux chaises narratives, c'est-à-dire je voudrais sortir de ça, ce roman facile, attendu, formaté, et avoir plus d'ambition littéraire. Mais jusqu'où je peux aller? Et donc, elle parle des grands chefs-d'œuvre du passé. Elle dit il y a des livres j'ai dû les relire deux fois pour. Elle dit aussi j'ai été snob parce que j'ai été influencée par des gens qui me disaient que Faulkner c'était génial, mais moi ça m'emmerdait Faulkner. Bon. Alors, comment faire? Écoutez, il faut se calmer avec tout ça.
On va se calmer en écoutant un extrait de Ulysse, donc de James Joyce, vous l'avez bien compris. Et c'est un extrait du fameux, du connu, en tout cas je pense pour les auditeurs de France Culture, du monologue de Molly. Et ça date de 1974.
Ils étaient tellement durs, j'ai dû les lui faire téter. Ils disaient que c'était plus sucré et plus épais que les vaches. Et puis après, il voulait me traire dans le thé. Oh, non. Oh, vraiment, il est renversant. Hein.
Si je me rappelais la moitié des choses, j'en ferais un livre. Les œuvres de Maître Poldi. Oh, il a été plus d'une heure après eux, comme un gros bébé que j'aurais eu la pendule. Ils veulent tout mettre dans leur bouche. Mon Dieu, tout le plaisir qu'ils peuvent tirer d'une femme. Oh, Seigneur, je sens encore sa bouche. Je voudrais qu'il soit ici, ou quelqu'un d'autre, pour me laisser aller avec et pour jouir encore. Je me sens tout en feu à l'intérieur. Si seulement je pouvais rêver ça, comme quand il m'a fait jouir la deuxième fois en me chatouillant par derrière avec son doigt. J'ai dû jouir pendant au moins 5 minutes avec mes jambes autour de lui. Après, il a fallu que je le tienne serré. Oh Seigneur, j'avais envie de hurler toutes sortes de choses. Chiasse ou merde ou n'importe quoi, hein. Seulement ne pas paraître vilaine. Oh la brute, la sauvage. Jeudi, vendredi 1, samedi 2, dimanche 3. Oh, je ne peux pas attendre jusqu'à lundi. Un train qui siffle quelque part, mon Dieu, la force qu'elles ont dans le ventre, ces grosses locomotives comme des bêtes géantes. Et l'eau qui boue partout et de tous les côtés.
C'était donc un extrait du monologue de Molly dans une archive de 1974 que notre réalisateur Nicolas Berger a trouvé, mais nous ne connaissons pas le nom de l'interprète. Hélas, alors ça fait donc partie du dernier chapitre hein, de Ulysse. On l'entend, c'est un chapitre qui est intitulé Pénélope et on l'a entendu, Cécile Gilbert. Le langage, loin aussi de la sacralisation qu'on peut avoir des grandes œuvres, le langage de Joyce, assez cru, assez drôle, nous pousse plutôt en fait à adopter une attitude assez, on va dire, comment dire, libérale, libérée en tout cas à l'égard du texte.
Oui, bah à l'époque, c'est quand même scandaleux. C'est pour ça que le livre est brûlé. Vous vous rendez compte que ce livre qui est paru en 22 n'a été autorisé aux États-Unis qu'en 1934 et qu'il a été brûlé. Des autodafés, comme on verra après avec le nazisme. Vous voyez, c'est quand même...
Qui, jusque dans les années 60, se passait sous le manteau en Irlande même. Donc là où quand même l'histoire se passe.
Alors voilà, ce qui est prodigieux, c'est que Joyce, puisqu'évidemment, c'est le monologue de Molly, mais en fait, c'est un homme qui l'a écrit, donc un homme qui a réussi à se projeter dans l'intériorité d'une femme à ce point, ça c'est assez prodigieux. Ce qu'on n'entend pas à l'oral, parce que l'interprète dit bien le texte, mais c'est qu'en fait, c'est un texte complètement dépunctué.
Elle le dit même presque trop bien.
Voilà, elle le dit presque trop bien, parce que ça devrait être un peu torrentiel, c'est un flux de conscience en fait.
Oui.
Alors, Joyce n'a pas inventé le flux de conscience. Il y a eu ce monologue intérieur dans un roman qui était précédent, qui a été publié en 1913, qui était un livre du jardin, je crois que c'est ça. Les lauriers sont coupés, je crois que c'est ça. Et c'est lui qui a inventé le monologue intérieur. Mais enfin, c'est Joyce qui l'a porté, au climax. Et en fait, lire quelque chose de déponctué, ça oblige à une nouvelle lecture. Il y a eu des livres déponctués. Est-ce qu'on accepte aujourd'hui de lire des livres déponctués qui sont un peu écrits comme, je sais pas, Le paradis de Philippe Solers, par exemple, c'est un livre complètement déponctué. Il n'y a aucune ponctuation dans le livre, c'est-à-dire que c'est la scansion des mots, la façon dont on les lit, c'est comme une musique, c'est comme une... Ça, je pense que ce sont des œuvres modernes qui sont difficilement recevables aujourd'hui. En tout cas, les gens qui se mêleraient d'écrire des choses comme ça, ce serait très difficile pour eux.
Mais l'ambiguïté aussi, c'est de tomber dans le versant inverse, Cécile Gilbert, à savoir en fait de si on tentait de faire de la littérature où il n'y avait plus de ponctuation, où on tentait en fait des nouvelles formes. Alors déjà, est-ce que de nouvelles formes sont encore possible, ça pose quand même la question de la nouveauté, mais aussi, est-ce que ce ne serait pas une posture, c'est-à-dire être dans le simili, la posture de la création qui, à travers des symboles extérieurs, la pseudo-torture de la langue, créerait une forme nouvelle?
Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui se mettre dans cette posture avant-gardiste, puisque en fait elle semble avoir produit beaucoup d'effets et en fait elle n'est plus recevable aujourd'hui.
Recevable de la part des éditeurs, des lecteurs ou recevable même impossible à faire?
Non, je pense que c'est une question historique. C'est une question historique, c'est-à-dire que quand tout est, par exemple, quand tout est corseté, qu'on est dans une période ultra-réactionnaire, quand il y a une sorte de canon comme ça qui corsette comme à la fin du 19e siècle, au début du 20e, la belle époque, tout ça, il ne faut pas oublier, tout ça se passe avant la Première Guerre mondiale, avant que le monde s'effondre et devienne ce chaos, voilà. Il est révolutionnaire, si vous voulez, de pousser les formes, de les changer, c'est ce que fait Joyce, par exemple, et ce que font les épigones modernes, ce que fait Duchamp en art, etc. Tout ça, c'est la même époque. Ça a un sens historique. À partir du moment où, dans une époque, si vous voulez, où, où, ou même la question des classiques de la littérature, même les plus, les plus faciles à lire, sont pas si évidents, que les gens veulent plus les lire, que les jeunes s'en foutent, etc. Je pense pas, c'est évident qu'historiquement, la question n'est plus, à la posture avant-gardiste. Et d'ailleurs, toute la question des avant-gardes est épuisée, en ce 21e siècle. C'est plus ça la question. La question, c'est de savoir ce qu'on peut conserver. Donc, si vous voulez, quand ça se délite, il faut peut-être devenir réactionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tout est réactionnaire, il faut peut-être devenir révolutionnaire, mais quand tout est en cours de décomposition, il faut peut-être être réactionnaire au sens de conserver, essayer de conserver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un livre qui serait écrit avec une ambition esthétique, d'ordre classique, une belle langue qui utilise tout le clavier de la langue actuelle, de sa syntaxe, de son lexique, etc., ben ça serait déjà pas si mal. Vous voyez ce que je veux dire?
Déjà ça, vous trouvez que ça n'est pas fait?
C'est pas ça, c'est c'est-à-dire ce que je vois. Il y a d'excellents livres publiés aujourd'hui, c'est pas du tout, il faudrait pas me faire dire ce que je veux pas dire. Il y a d'excellents livres publiés aujourd'hui, des livres passionnants qui explorent des formes narratives intéressantes, la non-fiction.
Il y a un renouveau de la poésie aussi.
Voilà, de la poésie, il y a des gens qui écrivent des livres sous forme d'enquête qui sont passionnantes. Bon, il y a toutes sortes de formes, mais si vous voulez, il faut pas oublier que l'industrie éditoriale, alors je parle de la France, je parle pas d'autres pays, parce qu'en plus en France on a toujours tendance à être extrêmement réceptif et indulgent et accueillant avec des formes, des nouvelles formes quand elles viennent de l'étranger, et je trouve que sur le plan des auteurs français on l'est beaucoup moins. Mais il faut dire que l'industrie éditoriale française pousse à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut quand même pouvoir pitcher un livre facilement, et puis quand on est obsédé par les dérivés, les contenus dérivés, c'est-à-dire quand on se soucie de savoir comment ça peut être adapté au cinéma, dans une série, dans un podcast, dans un roman graphique, dans une BD, vous voyez bien que la question de l'invention formelle n'est plus au premier plan. C'est normal. Donc on privilégie, si vous voulez, des fictions. On revient sur cette histoire du roman avec des personnages très incarnés, très romanesques, une intrigue, etc. Donc l'industrie éditoriale n'encourage pas, au contraire, elle décourage les innovations ou les choses qui sortiraient un petit peu de l'ordinaire. Donc on a tendance quand même à avoir des choses qui sont très formatées, je trouve.
Vous avez prononcé le mot, Cécile Guilbert, de conservation. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que est-ce qu'une œuvre comme Joyce, comme celle de Joyce, Ulysse, est-ce qu'il faudrait la conserver au sens de, il faut effectivement l'élever au rang de chef-d'œuvre, qui déjà élevé au rang de chef-d'œuvre, mais est-ce qu'il faut le conserver dans le sens, il faut en fait, pour l'instant, conserver un petit nombre de chefs-d'œuvre et se rappeler que c'est ça des chefs-d'œuvre.
Ce qu'il faut conserver,
en œuvre de patrimoine.
Les livres se conservent eux-mêmes, si vous voulez, et c'est pour ça que je viens à une question qui est la question de la lecture. C'est-à-dire qu'en fait, la lecture est la question fondamentale concernant la littérature. Si vous voulez, Claudel avait eu cette phrase, le but de la littérature est de nous apprendre à lire. Je le pense profondément. Et je pense que la lecture est plus fondamentale même que l'écriture, vous savez pourquoi ? Mm-hmm. Parce que si nous avons des bons lecteurs et qu'on produit plus aucun chef-d'œuvre, les bons lecteurs permettent à la littérature du passé et aux chefs-d'œuvre du passé de vivre. Admettons, nous sommes dans une époque où il n'y a plus aucun chef-d'œuvre qui est produit en littérature. Ce n'est pas le cas, mais disons, prenons cette hypothèse. Mm-hmm. Si nous avons des bons lecteurs, des lecteurs endurants, des lecteurs exigeants, des lecteurs qui ne lisent pas que pour se distraire ou pour s'identifier.
Qui ont du temps, qui ne se sentent pas coupables de ne pas tout comprendre.
Voilà, si nous avons des bons lecteurs, la littérature du passé, les chefs-d'œuvre du passé peuvent continuer à vivre. Mais si nous n'avons pas de bons lecteurs, les chefs-d'œuvre du passé disparaissent, on ne trouve plus leur... Et les chefs-d'œuvre à venir restent lettre morte, vous comprenez ? Mm-hmm. C'est pour ça que la lecture, c'est un enjeu fondamental, en fait.
Mais si la littérature, et comme vous le rappelez, Cécile Guilbert, en citant Claudel, si le but de la littérature, en fait, c'est d'apprendre à lire, qu'est-ce qu'on fait de cette littérature qu'on ne lit pas ? En fait, qui est seulement vénérée, qui est pour le coup très conservée. C'est-à-dire que des hommages à Proust, on en a plein. Des hommages à Joyce, on en a plein. Il y a plein d'archives sur l'INA qui disent tout l'amour des écrivains pour Joyce. Mais pourtant, cette littérature-là n'est pas lue. Donc on en revient au paradoxe de départ de ma question qui était qu'est-ce qu'on fait de cette littérature qui est illisible et donc qui n'est pas lue ?
Alors d'abord, il faudrait Enfin, je pense que si vous voulez, les commémorations à répétition des supposés grands auteurs qui le sont, comme Proust, comme Joyce et comme beaucoup d'autres, si vous voulez, sont à la mesure, dans leur démesure, de la haine qu'on a pour la littérature aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh ben, je dis que dans une époque, si vous voulez, où on privilégie des fictions faciles à lire, des choses voilà qui sont une sorte de produits formatés, il faut regarder les livres de best-sellers, etc. Bon, en fait, on se dédouane, et les éditeurs aussi, parce que aussi c'est les éditeurs, si vous voulez, qui nous inondent le marché sous parce que c'est le centenaire de Proust, si vous voulez, il y a pléthore de livres sur Proust, donc ils en rajoutent des couches et des couches. Mais si demain matin quelqu'un vient avec un manuscrit qui ressemble pas à celui de Proust, parce que sinon ça serait un plagiaire ou ça serait trop visible, mais qui vient avec quelque chose de l'ampleur d'un Proust, il y a assez peu de chances pour qu'il soit publié. D'ailleurs, une expérience a été faite par Dominique Noguez, feu Dominique Noguez, il y a une quinzaine d'années, quand il avait soumis à des éditeurs des manuscrits de Virginia Woolf, etc., avec des noms d'auteurs fictifs, et que tout avait été refusé. Bon. Donc, si vous voulez, les éditeurs se dédouanent de refuser aujourd'hui des manuscrits qui sont trop longs, qui sont trop complexes, qui ne vont pas trouver leur lecteur, comme ils disent, par des commémorations et du produit éditorial proustien, etc. Mais de toute façon, cette littérature qu'on ne lit pas, dites-vous, elle existe quand même, elle intéressera toujours des gens. Donc, c'est pas...
Donc le problème de la conservation ne se pose pas en tant que tel. C'est-à-dire que la conservation ne va pas forcément de pair avec une forme de sacralisation de l'œuvre ou de sacralisation de la lecture. C'est non. Ça que vous sous-entendez.
Non, ce qu'il faut conserver, je vous dis, c'est les capacités de lecture et les capacités critiques. Les œuvres, elles existent, elles sont publiées. D'ailleurs, tout est publié aujourd'hui. Il n'y a plus de censure. Il n'y a plus de censure au sens où peut-être paradoxalement.
Sauf justement des formes trop nouvelles, comme vous le disiez.
Oui, ou paradoxalement, la censure, comme disait Barthes, c'est que maintenant, comme tout est là et tout est disponible, si vous voulez, on est sous une espèce de vague énorme. En fait, la censure, elle fonctionne dans la mesure où on ne peut pas lire tout. Voilà.
Donc c'est ce que je disais au départ, à savoir sur la littérature qui est beaucoup trop, en fait, qui n'est pas lue parce que trop prolifique. Et cette question de la conservation, parce que vous avez employé ce terme, Cécile Guilbert, ça se pose effectivement pour des chefs-d'œuvre comme Ulysse. C'est-à-dire que il faut à la fois le conserver, n'est pas forcément opposé à faire vivre une lecture. Alors comment on peut faire vivre cette lecture sans justement tomber dans ce que vous désignez, à savoir la sacralisation, qui rigidifie en fait l'œuvre.
Mais moi j'ai toujours pensé, si vous voulez, que les amoureux de la littérature, qui soient comme vous, des passeurs de formes culturelles dans une radio comme France Culture, ou des essayistes qui écrivent des livres sur certaines œuvres ou certains auteurs, ou certains grands professeurs. Vous voyez, il y a toujours besoin d'avoir aussi des intermédiations. C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal, et ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des êtres humains qui étaient des passeurs d'œuvres un peu plus compliquées. Je pense qu'on peut continuer à faire vivre les œuvres en essayant de montrer aux lecteurs potentiels ce qu'elles en sont, les beautés, les nouveautés. Donc ça existera toujours, ce travail de passeur. Enfin, du moins, j'espère.
Moi aussi.
Looking at the cover, oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. You got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a sister by looking at her brain.
at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge by looking at the cover. Come on.
L'histoire vraie d'une vie, elle aussi a dû être racontée par quelqu'un. Et si c'est une autobiographie, tracée d'une plume pudibonde par un personnage sans talent, il se peut bien que cette vie paraisse bien fade à côté d'une invention merveilleuse comme l'Ulysse de Joyce.
Ah, l'Ulysse de Joyce, je crois que c'est votre œuvre préférée.
Oui, c'est mon grand dada.
C'est ça.
C'est une nouvelle espèce verbale que l'auteur émerveillé offre au mauvais lecteur qui ne veut pas regarder, au bon lecteur qui aperçoit tout à coup une facette toute nouvelle de la phrase chatoyante. Ceux que j'aime d'autre part savent que le verbe seul est la valeur réelle du chef-d'œuvre, un principe aussi vieux que vrai. Ce qui n'arrive pas tous les jours. Il n'est pas nécessaire de nommer qui que ce soit. On se reconnaît par un langage de signes, à travers les signes du langage. Ou bien au contraire, tout nous irrite dans le style d'un contemporain détestable, même ses points de suspension.
France Culture, sans oser le demander... Géraldine Mosna-Savoie.
C'était une archive de Nabokov, l'écrivain Nabokov, dans Apostrophe en 1975. On parle aujourd'hui avec vous, Cécile Gilbert, on traite cette question de pourquoi personne n'arrive à finir Ulysse de Joyce. Alors déjà, pas personne, il faut quand même le dire, et puis on n'est pas obligé de le finir, vous nous l'avez dit, pour lire, pour avoir lu Ulysse. Néanmoins, on a quand même entendu la Nabokov qui établit cette distinction entre un bon et un mauvais lecteur. Alors effectivement, être un bon lecteur, ça n'est pas forcément aller jusqu'au bout d'un livre, mais c'est percevoir l'espèce verbale qui est en train de se jouer dans la lecture qu'on a, et puis il parle même de reconnaissance des signes. En fait, il y a même presque quelque chose un peu d'animal, quoi, de l'ordre de comme d'un être qui va pister un animal. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction, Cécile Gilbert ?
Elle est intéressante parce qu'en fait, Nabokov a été un professeur de lecture paradoxal, mais très intéressant dans la mesure où il a dit plusieurs choses qui me semblent à creuser de façon féconde. La première chose qu'il a dite, c'est que il n'y a pas de grands écrivains, il y a des grands ou des moins grands ou des mauvais livres. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait un podium. Nabokov est quelqu'un qui aime beaucoup hiérarchiser les choses et qui a le sens, effectivement, de la hiérarchie.
Donc il est potentiellement élitiste. Quoi.
Voilà, il est potentiellement élitiste. Il est considéré aujourd'hui, surtout maintenant, comme d'une arrogance extraordinaire. Simplement, de dire qu'il n'y a pas de grands auteurs, il y a des grands livres ou des mauvais livres, et de citer, par exemple, chez Joyce, Ulysse qu'il adore, mais Finnegan's Wake, qui est encore plus radical sur le
plan... Donc il y a un autre livre de Joyce.
On n'en a pas parlé, mais il y a un autre livre de Joyce qui s'appelle Finnegan's Wake, qui a eu la nécessité de 12 ou 15 ans de travail et qui paraît en 39, deux ans avant la mort de Joyce, et qui ne sera traduit en français qu'en 1983, après 18 ans de travail du traducteur, qui est une
qui
épreuve...
Qui est devenu fou.
Qui est un livre encore plus radical et encore plus difficile à lire que Ulysse. Bon. Nabokov détestait Finnegan's Wake, il adorait Ulysse. Donc il disait Ulysse, la question, c'est pas que Joyce soit un très grand écrivain, c'est que Ulysse c'est génial et que Finnegan's Wake c'est nul. Et il faisait la même chose avec Tolstoï, et il faisait la même chose avec Tourguenieff, et il faisait la même chose avec tout le monde. Bon, ça c'est le premier point. Il n'y a pas de grands auteurs, il y a des grands livres ou pas. Bon, après le mauvais lecteur pour lui, c'est le lecteur qui lit pour s'évader, qui lit pour s'identifier au personnage, qui lit pour s'instruire, etc. Il dit le vrai bon lecteur, c'est celui qui lit pour jouir de l'art. Voilà. Pour jouir de l'art. Alors évidemment, c'est une conception très restrictive de la lecture. Mais en ça, dit-il, il rejoint l'écrivain, puisqu'il fait aussi toute une typologie des écrivains du plus mauvais au plus génial. Le mauvais, c'est celui qui est juste un conteur, comme ça, ou qui est le reflet des opinions du jour, on pourrait dire des débats de société, etc. Et en fait, l'auteur le plus merveilleux, c'est le magicien. Voilà, c'est le magicien qui déploie des féeries, des sortilèges, verbaux, lexicaux. Alors, c'est très facile à lire, Nabokov. Il n'y a jamais aucune obscurité, aucune illisibilité chez Nabokov. Mais c'est vrai qu'il y a une conception de l'art au sens d'artifice, où il balade son lecteur, où il lui déploie des, comme quelqu'un qui serait un marchand de soierie, qui déploie des tas de choses fabuleuses et qui éblouit le lecteur. En même temps, je disais que c'était un professeur de lecture paradoxale parce que Nabokov interdisait à ses étudiants, quand il a été 20 ans professeur dans des universités américaines, il leur interdisait toute une série de choses. Il interdisait les interprétations psychanalytiques parce qu'il détestait la psychanalyse. Or, c'est un peu exagéré parce que si on ne connaît pas, par exemple, le conflit oedipien qui liait Kafka à son père, il y a quand même des choses qui échappent. Je ne dis pas que la psychanalyse doit être mise à toutes les sauces, mais enfin, elle peut être une clé. Il interdisait le repérage de ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire quand il y a dans un livre des références à d'autres livres, ou sous forme de citations, ou sous forme d'allusions, etc., qui est un plaisir pour le lecteur cultivé de reconnaître des choses. Qui n'empêchera pas le lecteur pas cultivé de jouir du livre. Mais si vous voulez, c'est normal qu'un écrivain qui a lu des bibliothèques entières, d'une certaine façon, suinte la littérature par tous les pores. Donc forcément, l'intertextualité, elle existe souvent dans les livres. Nabokov détestait qu'on fasse allusion, et il n'y faisait jamais allusion à l'intertextualité. Il adorait Madame Bovary, il refusait de voir tout ce qui était d'intertextuel ou biographique. Il refusait les clés biographiques de l'auteur pour interpréter les livres. Et pourquoi il refusait ça ? Parce qu'en fait, il ne voulait pas qu'on applique tout ça à sa propre œuvre, puisqu'il se considérait lui-même comme un magicien et un enchanteur et quelqu'un qui était arrivé au top.
Il avait établi lui-même sa propre hiérarchie de lui-même.
En fait, on s'aperçoit que son professorat de lecture, en fait, intéresse directement l'interprétation qu'on pourrait donner de ses propres livres. Donc c'est pour ça qu'il faisait ça pour les autres, parce qu'il ne voulait pas qu'on le fasse pour lui. Et donc il a tout verrouillé. Et ça, c'est intéressant de le repérer quand même.
Ce que dit Nabokov à propos de la lecture pour lire, pour se faire plaisir, pour se divertir, pour s'instruire, en fait, une lecture qui serait instrumentale. Et alors même qu'il adore Emma Bovary, on imagine qu'Emma Bovary, pour lui, c'est l'enfer de la lectrice, c'est-à-dire elle lit pour s'évader.
Oui, ben il en parle d'ailleurs, il dit que Madame Bovary, Emma Bovary, est une mauvaise lectrice. Mais si vous voulez, c'est un petit peu trop sévère comme jugement, parce qu'on peut tout à fait lire des choses pour jouir de l'art, et on peut les relire, et puis on peut aussi... C'est-à-dire que les plaisirs de lecteur sont multiples et variés. On peut lire ce qu'on appelle des romans de plage avec un peu de mépris, ou des polars qui ont d'autres exigences narratives, on peut lire tous les genres, on peut tout lire.
Mais... Surtout, une question, Cécile Guilbert, qu'est-ce que ça veut dire, jouir de l'art ?
Jouir de l'art, c'est de s'émerveiller de l'ingéniosité ou des qualités, si vous voulez, artificieuses qui sont liées à l'art. Je parle dans le cas de Nabokov, ou des beautés esthétiques, du travail qui a été fait sur le vocabulaire, sur les formes syntaxiques. C'est-à-dire, en fait, c'est que le lecteur rentre un peu dans la mécanique qui a été celle de l'écriture, le laboratoire un peu d'écriture, et soit capable... c'est ça pour Nabokov. Le bon lecteur, c'est celui qui va jouir de l'art, parce qu'il va jouir, si vous voulez, des formes et des dispositifs et des stratagèmes inventés par l'auteur.
Mais ce qui échappe...
C'est le miroir de l'auteur, d'une certaine façon.
Mais ce qui échappe, en fait, aux trois quarts des lecteurs, voire à tous les lecteurs, parce que souvent, hormis les universitaires ou les écrivains, nous lisons... Non pas seulement pour nous évader, nous divertir ou pour apprendre, mais nous lisons parce qu'en fait on aime lire, on aime le plaisir que procure la lecture, inqualifiable qu'il soit, et pourtant on n'arrive pas à se figurer le travail d'écriture, de réécriture, de correction, de répétition, de grammaticalement. En fait tout ça c'est presque des coulisses qui nous échappent et on a sous les yeux... un vêtement qu'on devrait pouvoir porter, voler, sans se poser la question de comment il a été cousu.
Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même des livres qui fascinaient plus les écrivains que les lecteurs qui ne le sont pas. Mais en même temps, quand vous êtes happé par une rythmique, par une musique, parce qu'il y a des auteurs qui travaillent beaucoup cette question stylistique, du rythme. Alors, tout style n'est pas musique, toute musique est style d'une certaine façon avec le langage. Vous pouvez être happé et même jubilé d'une sorte de rythmique qui sera accordée à votre propre corps ou à votre propre système nerveux. Il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de miroir du bon lecteur, du bon écrivain. C'est-à-dire qu'il y en a, que certains vous allez tourner les pages, pas parce que vous voulez connaître la suite de l'histoire, mais parce que vous êtes entraîné par un style, peu importe ce qu'il vous raconte en fait. Et je crois que c'est ça en fait qui est la vraie jouissance de l'art en fait.
Et qui se découvre vraiment avec la lecture d'Ulysse pour le coup, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui. Alors moi je l'ai pas fini.
Alors la jouissance d'Ulysse, elle est un peu différente, si vous voulez, parce que c'est trop heurté. Si vous voulez, il n'y a pas d'unité, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'unité stylistique, en fait. Il y a des ruptures stylistiques qui sont très importantes d'un chapitre à l'autre. Donc, parfois, paf, c'est comme si on roulait, puis tout d'un coup, on tombe sur un gros rocher qui vous... Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut sauter le chapitre, éventuellement passer à un autre. Il n'y a pas d'unité stylistique dans Ulysse.
Ou alors il faut accepter justement de se prendre des gros rochers dans la tête de temps en temps.
Oui, mais il faut peut-être pas non plus, il faut peut-être pas non plus y accorder trop d'importance et il faut se dire bon bah ça c'est pas pour moi, je passe mon chemin et je continue plus loin, je vais peut-être trouver une autre piste qui va m'entraîner ailleurs, qui va être me satisfaire davantage.
On n'a pas encore parlé, Cécile Guilbert, aussi de, parce que là on parle en fait de la lecture en tant qu'un acte individuel ou alors en tant qu'acte d'écrivain ou d'universitaire ou juste de plaisir, mais il joue quand même aussi la question, en fait, évidemment, des goûts, en fait, de la distinction sociale. Je vous propose d'écouter une archive de Simone Signoret qui parlait de ceux qui disent « Je ne lis pas Proust, je relis Proust ».
On dit « Ah, la petite Madeleine de Combray, Dieu que c'est beau !» Et je défie, à moins que les gens soient beaucoup plus des génies que je ne suis, je défie des élèves de philo d'avoir lu entièrement Proust. On en lit des morceaux choisis, on les commente en classe, et après, pendant 20 ans, on peut dire, dans les salons, il faudra que je relise Proust. Alors que très peu de gens l'ont lu, et qu'à savoir que ça ne s'est tiré qu'à 80 000 exemplaires depuis que ça a été publié, pour savoir quand même assez peu de gens l'ont lu. Alors moi, à force de me prendre en flagrant délit, de dire comme ça, dans les soirées mondaines, il faudra que je relise, il y a 2 ans quand même, je l'ai lu. Et ça m'a duré 1 mois et demi, c'était formidable.
Alors ça y est, Simone Signoret a pu dire, en tout cas dans cette archive de 1966, qu'elle aussi, elle a lu Proust et qu'éventuellement, elle va relire Proust. Elle dit en tout cas très bien ce snobisme qu'il y a à dire « je relis une œuvre », mais aussi qui dit le snobisme en fait pour certains, et donc là se joue une question de sociologie et de classe sociale, et voire même de lutte des classes dans la culture. Il y aurait des bons lecteurs qui liraient, reliraient de grands textes, et puis il y aurait les mauvais lecteurs qui liraient pour se divertir. Cécile Guilbert.
Oui, alors c'est évident qu'il y a un effet de snobisme dans la lecture de certains auteurs ou d'afficher la lecture de certains auteurs. C'est évident, ça a toujours existé et ça existe, bien sûr. Donc effectivement, il est chic de dire qu'on a lu Ulysse, il est moins chic de dire j'y comprends rien. Bon, mais j'ai expliqué déjà et dit pourquoi il fallait s'acharner par rapport à tout ça. Alors ce qui m'amuse dans l'archive Simone Signoret, c'est qu'elle parle de Proust. Parce que justement, alors est-ce qu'elle a bien choisi son sujet ? C'est vrai que Proust, il y a un effet de snobisme autour de Proust. Parce qu'il était snob lui-même et qu'il y a, si vous voulez, quelque chose de diffracté. Aussi dans ce que raconte Proust concernant le snobisme. Mais en fait, il y avait une phrase moi qui m'avait fascinée de Roland Barthes, que j'avais citée d'ailleurs, je ne sais pas, dans un de mes livres, c'est qu'il disait « Bonheur de Proust, d'une lecture à l'autre, on ne saute pas les mêmes passages ». Et je trouve cette phrase merveilleuse, parce que évidemment, le sujet de Proust étant le temps, quand on lit Proust jeune, ou quand on lit Proust à l'âge de la maturité, ou quand on lit Proust quand on est très âgé, on va saisir des choses avec une acuité qui va être différente, si vous voulez, puisqu'il a trouvé des lois psychologiques qui sont liées à la durée, au temps, à ce qui s'efface, à ce qui meurt, à ce qui se transforme, etc. Donc on ne va pas sauter les mêmes passages. Que vous dire sur le snobisme ? Bon, écoutez, c'est très bête, le snobisme. Mais d'une lecture à l'autre, on ne saute pas les mêmes passages. Ça veut dire que bon, d'abord, voilà, encore une fois, il n'y a pas de honte à sauter des passages. Et il y a des auteurs qui ont explicitement dit, voilà, je rebondis là-dessus, c'est que, par exemple, Robert Musil avait dit, concernant L'homme sans qualité, qui est personnellement un livre que j'ai jamais pu terminer, d'ailleurs qui est un livre inachevé hein, en plus, mais qui est un livre énorme.
Même en sautant des pages ?
Non, parce que justement, là, c'est pas la même structure langagière et d'un Ulysse qui vous permettrait de rebondir d'un chapitre à l'autre. en trouvant votre bonheur. C'est-à-dire qu'il y a une vraie continuité voilà, stylistique dans L'homme sans qualité, qui est une œuvre majeure, mais qui peut avoir des digressions très ennuyeuses, à mon sens. Bon, en tout cas, c'est un livre que je n'ai pas fini. Il faut peut-être que je m'y remette, je ne sais pas. Lui disait, il faut lire deux fois. Voilà, il faut lire deux fois L'homme sans qualité. Alors, tout le monde n'a pas le loisir de lire deux fois. Déjà, une fois, c'est difficile. Mais il y a des auteurs qui ont... qui forcément vont dérouter à la première lecture, etc., qu'il faut peut-être lire une deuxième fois. Voilà, c'est très difficile de dire.
Mais ce qui est déjà très difficile, Cécile Gilbert, c'est de définir le terme de lire. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, se dire qu'il y a des bons, il y a des mauvais lecteurs, faire des hiérarchies comme Nabokov, dire qu'il y a des bons et des mauvais écrivains. Il y a aussi des lectures qui sont très différentes. Donc on peut lire en fait en s'accrochant et en pensant à autre chose dans sa tête, en se disant vite, allez, je suis page 1000 et j'ai hâte d'être à la page 1100 parce que j'en aurais fini avec Ulysse. Est-ce que ça, c'est vraiment un bon acte de lecture, d'une certaine manière? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans le texte ou pas? Y a quand même...
Si vous vous dites ça, c'est que en fait, vous vous ennuyez beaucoup, donc à mon avis, il vaut mieux abandonner. Mais c'est pas grave, encore une fois.
L'abandon n'est pas grave, c'est mais le fait, par exemple, vous insistiez sur l'idée de la compréhension, ou sur le fait qu'il y ait de l'incompréhension et que c'était pas grave. Sur le fait aussi de sauter des passages. Mais un livre a été écrit dans une certaine continuité, il y a la peur de louper quelque chose. C'est-à-dire que si on se cogne Ulysse, on a envie de tout avoir lu pour dire j'ai tenu bon aussi, il y a quelque chose et je n'ai rien loupé. C'est un chef-d'œuvre, je l'ai eu ce chef-d'œuvre.
Oui, mais j'ai l'impression que vous en parlez comme d'un exploit sportif.
Bah, il y a de ça, je pense, pour certains lecteurs, non ? Il faut se départir aussi alors de cette idée de la lecture comme un exploit, c'est-à-dire de se dire on a fini, comme Signoret le disait. J'en ai fini, moi aussi je pourrais dire que je l'ai lu.
Mais ça c'est social effectivement, c'est social, c'est purement social, c'est quelque chose qu'on dira à ses copains ou que Simone Signoret dit voilà j'ai lu tout Proust, mais c'est social, à qui on le dit, ça on le dit pas soi-même, enfin si. Vous voyez, c'est une sorte d'exploit social qui est lié... qui est lié au snobisme, mais si on lit entièrement Ulysse et qu'on est arrivé au bout, bah écoutez, ça dépend quelle satisfaction on en retire. Si ça a été trop douloureux ou quoi, on a peut-être eu tort de s'infliger. Et si on n'aime pas ça, c'est pas grave du tout. Mais d'un autre côté, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est que je crois que c'est Kundera qui disait ça dans L'Art du roman, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui finalement n'aiment pas Proust, n'aiment pas Joyce, n'aiment pas certaines œuvres ou Cervantes ou je ne sais quoi. Et Kundera dit c'est pas grave, c'est une chose, ils peuvent vivre en paix sans aimer ça. Mais en fait, ils vivent pas en paix parce qu'ils se sentent humiliés par rapport à quelque chose qui a l'air de les surpasser, et donc ils finissent par la détester.
Oui.
Et ça, c'est dommage.
Alors, il nous reste encore quelques minutes, Cécile Gilbert. En fait, à travers cette question-là de la lecture de Proust, de Joyce, de toutes ces œuvres qui nous semblent difficiles, mais auxquelles on doit renoncer, on doit renoncer à cette idée en fait de lire de A à Z, de compréhension. Est-ce qu'il se joue pas aussi la question de ce qu'on, on en a parlé, hein, mais il faut peut-être le dire une dernière fois, de ce qu'on propose en fait. À ces lecteurs-là, leur dire la lecture, ça n'est pas forcément de cette manière-là qu'elle se produit, et lire un texte ne se passe pas forcément comme ça, et un texte n'est pas forcément avec un sujet, un verbe, un compliment, il n'est pas forcément avec tel personnage. Est-ce que c'est ça qui manque à la littérature aujourd'hui ?
Il faut se familiariser. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des passeurs qui vous aident, si vous voulez, à décrypter des œuvres et vous en faire comprendre les choses, et qui vous donnent des clés qui vous aident, ça c'est sûr. Deuxièmement, il faut compter aussi sur les nouvelles traductions, parce que souvent, par exemple, une nouvelle traduction débloque complètement quelque chose, un texte. Je peux en donner trois exemples. Le premier exemple, c'est Ulysse. Effectivement, moi, j'ai relu des choses dans la traduction de 2004, qui est la nouvelle traduction. Elle est dans un français beaucoup plus, si vous voulez, contemporain, actuel, comme on dirait les choses, et non pas des expressions un petit peu vieillottes et qui sont ennuyeuses et qui sont complètement décalées. Bon, donc ça, il y a quand même un peps plus grand, et il y a eu des très belles trouvailles qui ont été faites par les traducteurs. Bon, il y a ça, les nouvelles traductions. Il y a eu la nouvelle traduction, par exemple, de Tristram Shandy, dont on parlait. Moi, je me souviens, quand j'ai lu la première fois Tristram Shandy, je me suis dit, mais tout le monde me dit que c'est le livre le plus drôle de son époque. Moi, je trouve que c'est un espèce d'humour de clergyman un peu lourd. Voilà, bon, il y a une nouvelle traduction dans les années 2000 de Jouvet chez Tristram qui a complètement boosté le texte. Bon, un peu trop peut-être, mais au moins on comprenait pourquoi c'était drôle et complètement cocasse et, à l'époque et tellement excentrique. Bon, Cervantes, pareil. Moi, quand j'ai commencé à lire Don Quichotte il y a très longtemps, ça m'ennuyait un peu. Je trouvais qu'il y avait des tas de longueurs et tout. Puis il y a une nouvelle traduction d'Aline Schulman où il n'y a plus de notes, il n'y a plus rien. C'est, on se jette là-dedans et c'est beaucoup plus vivant. Donc, si vous voulez, il faut aussi miser sur ces nouveaux effets de lecture que produisent les nouvelles traductions. Ça me semble important.
Donc, c'est les traductions presque qui rendent pas accessibles, mais qui, au contraire, sont maintenant la création littéraire qu'on attend en fait d'un texte, qui nous font découvrir ça.
Tout à fait. Souvent, la deuxième traduction est meilleure. Et j'en veux aussi pour preuve, le vieux français. Quand on lit les essais de Montaigne tels qu'ils ont été écrits, qu'on les lit en français un peu modernisé, c'est plus accessible, évidemment.
Merci beaucoup Cécile Guilbert, merci d'avoir ouvert notre saison de Sans oser le demander avec cette question. Pourquoi personne, ou presque pas tout le monde, n'arrive à finir Ulysse de Joyce ? Eh bien, ça n'est pas grave. Merci beaucoup d'en avoir parlé cet après-midi. De vous, Cécile Guilbert, on peut lire Roue libre, chronique, c'est paru aux éditions Flammarion. On peut aussi lire Écrit stupéfiant, drogue et littérature d'Homère à Will Self, c'est aux éditions Robert Laffont. Et puis, bien sûr, chers auditeurs, chères auditrices, lisez ou pas, commencez sans finir Ulysse de Joyce est disponible aux éditions Gallimard Folio Classique sous la direction de Jacques Aubert, donc dans une nouvelle traduction.
Au bout de la nuit qui s'achève, à l'heure du compte à rebours, lassée des avenues sans rêve, de ma vie en contre-jour. Le temps m'accorde une trêve pour un peu de ton amour. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je joue mon vrai tour, je rends coup pour coup pour nous. Pour que ta vie soit un soir de fête, comment nous serons plus forts. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je joue mon vent tout, je rends coup pour coup pour nous.
Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laure Dallest. Réalisation Louise-André et Nicolas Berger, que je remercie d'être venu pour cette première de la saison. Je félicite pour la venue de Stanislas. Eh bien, bon congé paternité, on se revoit je ne sais même pas quand. Et puis à la prise de son, Jean-Frédéric pour cette première, je ne pouvais pas rêver mieux. On se retrouve demain pour Oser se demander, avons-nous déjà été insouciants ? Vous avez compris la référence si vous suivez tous les discours d'Emmanuel Macron. Eh bien sinon, vous saurez tout demain de l'insouciance ou comment cette notion psychologique fait désormais partie de l'espace politique. Et puis on se retrouve bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander.